en l'an 1916. C'était les paroles de l'ange, vous savez, qui avait dit à des enfants de Fatima. Le Saint-Ange a dit, notre Seigneur eucharistique qui est ainsi horriblement outragé de son sacrement. Parole d'un ange. C'était des paroles tout à fait prophétiques. Cependant, c'est une tragédie que dans l'histoire de l'Église, les voix prophétiques ne sont pas écoutées comme il se doit, ou sont écoutées trop tard. Nous voulons écouter la voix prophétique de l'ange de Fatima et la mettre en pratique. La famille catholique est le renouvellement de la liturgie. Le premier pas pour le renouvellement liturgique du côté de la famille est la prière régulière en famille. Puis une catéchèse intégrale de la foi catholique, spécialement en ce qui concerne la Sainte Eucharistie. Pour les enfants, en commençant par l'âge le plus tendre, et en continuant, et en approfondissant la catéchèse eucharistique pour les adolescents et pour les jeunes gens. Les exemples des deux parents ensemble est indispensable. Les enfants devraient voir la révérence avec laquelle leur père et leur mère prient, agenouillent et reçoivent la Sainte Communion. Nous avons un exemple très suggestif de la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle était éduquée dans l'esprit liturgique et eucharistique pour son père, le Saint Louis Martin, surtout par l'exemple. Chaque après-midi, Saint Louis Martin menait sa petite fille Thérèse à l'église pour visiter Jésus présent dans le très saint sacrement. Le dimanche était rempli de l'esprit liturgique. Pendant la liturgie dominicale de la Sainte Messe, Monsieur Martin avait donné à ses filles un émouvant exemple d'une participation active, c'est-à-dire consciente et fructueuse de la liturgie, réalisant pleinement la signification d'une participation active, comme l'a défini le Concile Vatican II, déjà un siècle avant. Participation active. Bien que la liturgie était célébrée en latin à ce temps, mais une participation très active. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous en relate un épisode de son autobiographie, je cite. Oh, le dimanche, quelle journée que celle du dimanche! C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. Toute la famille partait à la messe. Moi, je ne m'inquiétais guère d'être regardé, écoutant bien attentivement les sermons auxquels, cependant, je ne comprenais pas grand-chose. Le premier que je compris et qui me toucha profondément fut un sermon sur la passion du Seigneur. Et depuis, je compris tous les autres sermons. J'écoutais bien, en effet, mais je regardais papa plus souvent que le prédicateur, que le prêtre. Sa belle figure de mon père me disait tant de choses. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes. qu'il s'efforçait en vain de retenir. Il semblait déjà ne plus tenir à la terre, tant son âme aimait à se plonger dans les vérités éternelles. Fin citation de Sainte Thérèse. Quelle participation active jusqu'à là, c'est la participation active. Être touché de profond de l'âme. Donc, la famille devrait aussi pratiquer régulièrement l'adoration eucharistique. Toute la famille ensemble ou chacun individuellement participant peut-être dans une adoration eucharistique selon un horaire établi. La famille catholique devrait bien choisir le lieu de la messe pour avoir la garantie d'une célébration digne et sacrée, parce qu'une liturgie digne est déjà en elle-même une grande force formative pour la foi des enfants et des jeunes gens. Parfois, ça demande des sacrifices personnels et des inconvénients matériels. De déplacer peut-être en distance pour participer à une liturgie digne, il faut quelquefois de voyager. Mais toutefois, ces sacrifices et inconvénients matériels contrebalance largement ce une liturgie digne et sacrée. En effet, principalement au moyen des familles réellement catholiques et d'un clergé catholique sans compromis de la foi et de la liturgie, il y aura un durable et solide renouvellement de l'Église. Que Saint Jean 23 avait désiré. Donc, le vrai renouvellement de l'Église commence dans ce domaine qui est le plus important, c'est-à-dire dans le cœur de l'Église. Et le cœur de l'Église est notre Seigneur eucharistique. Toutefois, dans le cœur de la vie de l'Église d'aujourd'hui, on peut constater une profonde plaie à cause de la situation misérable, de l'irrévérence. Quand le cœur est malade, tout le corps est faible et sans énergie. Telle est la situation spirituelle un peu générale de la vie de l'Église d'aujourd'hui. Cependant, on peut constater souvent la chose suivante. On ne veut pas reconnaître la maladie et la faiblesse spirituelle, et même pas sa racine, et on simule une condition de bonne santé. On tente de donner à une cardiaque avec la cosmétique l'apparence de vitalité, déployant un activisme anthropocentrique et mondain au moyen des prétendus programmes pastoraux et continuels forums de discussion, des congrès, des synodes, etc. Reconnaître la maladie avec ses racines profondes, en ce cas la maladie cardiaque eucharistique, semble être désagréable, car ça demande un exigeant processus de guérison que l'on considère souvent comme inconfortable. Un processus de renouvellement et des guérisons supposent en première place que les catholiques agenouillent devant Dieu devant le Dieu eucharistique, qu'ils reconnaissent eux-mêmes et s'accusent de nouveau comme pauvres pécheurs, ainsi que le Christ l'avait demandé dans son évangile, et ainsi que l'ont fait depuis alors les apôtres et ses vrais successeurs. Le sacrement de la pénitence est la vraie pénitence que Dieu a donnée aux hommes. Ici se réalise la vraie conversion. Une conversion pas avec la propre force humaine, mais avec la force de Dieu. Donc, le vrai renouvellement de l'Église doit partir du cœur de l'Église, c'est-à-dire de l'Eucharistie. Et ce renouvellement doit purifier